j'ai insisté là-dessus. C'était bien au niveau de la licence globale.
C'est une redistribution.
C'est faire contribuer les consommateurs.
Absolument.
Et cette somme sera perçue auprès des fournisseurs d'accès.
Des fournisseurs d'accès qui vont intégrer à ce moment-là dans leur abonnement. Vous savez aussi, enfin, vous le savez mieux que moi,
ce que je dis,
combien ils y sont opposés. Mais admettons, puisque c'est au fond un principe qui est très séduisant, la question qui va ensuite se poser sera celui de la répartition des droits qui pourront être perçus à ce moment-là par toute société de gestion collective, puisque dans votre schéma, vous organisez cette répartition entre les différents acteurs de la création, auteurs, compositeurs, producteurs, artistes, interprètes. Et donc, là où la clé, le président de la SACEM et son directeur général insistaient sur la transparence, comment allez-vous organiser cette clé auprès de tous ces différents corps de métier, sociétés de gestion collective de ces différents corps de métier?
Avant de laisser la parole tout de suite à Xavier Blanc, je me permettrai de poser aussi moi-même une question pour essayer d'échanger là-dessus. Vous le savez, au niveau de la copie privée, par exemple, la copie privée actuelle, encore en 2011, nous percevions à peu près, globalement, j'entends, l'ensemble des ayants droit aux alentours de 190 millions, à travers de Copie France. Ces 190 millions n'étaient pas perçus, ne sont pas perçus auprès du public, mais des fabricants et des importateurs, et retournent à, vous le voir ici, Société de Perception au Milieu, Copie France. Là encore, on pourrait se poser la question, comment fait Copie France et comment font les sociétés pour savoir qui a copié quoi hier soir en Lozère à 23h45 et pouvoir répartir? Eh bien, sachez-le, cette répartition se fait et très bien depuis des années et cela ne pose aucun problème. Et peut-être que cette réponse ne satisfait pas totalement. Je vais passer la parole à Xavier Blanc.
Il y a deux niveaux différents dans votre question. Il y a la question du partage entre catégories et endroits, et peut-être au-delà, celle à laquelle François a commencé à répondre, celle de la répartition. Sur le partage entre ayants droit, ce que nous demandons, c'est d'appliquer les mêmes systèmes qui existent pour ce qui est un peu différent, mais des purs droits à rémunération, comme la rémunération pour copie privée ou la rémunération équitable. La rémunération pour copie privée audiovisuelle, par exemple, le législateur, c'est dans le code de la propriété intellectuelle, a répondu, ça sera un tiers, un tiers, un tiers. Donc c'est ce que nous préconisons en matière de partage entre catégories d'ayants droit de cette éventuelle licence globale. Donc un partage qui est organisé par la loi parce que c'est une question de sécurité dans les relations entre ayants droit. Sur les aspects répartition, François a déjà un peu répondu. À l'époque où on s'est beaucoup battu sur la licence globale 2004-2005 en préambule de la loi de 2006, on a vu faire une étude par une société américaine qui s'appelle Big Champagne pour qu'elle travaille sur l'information qu'on peut avoir sur les échanges qui sont effectués entre particuliers à des fins non commerciales, ce qui ferait l'objet du paiement de cette rémunération dans le cadre de la licence globale. Et je me souviens très bien, l'étude était de 2004, je crois. Je me souviens très bien de la conclusion de ces spécialistes qui était de dire que pour aucune autre rémunération, on ne peut avoir d'informations à un tel niveau, à un niveau équivalent que celle qu'on peut avoir en travaillant sur les flux. C'est-à-dire que sur le réseau, il y a moyen, outre l'échantillonnage, d'avoir des informations très précises sur les fichiers qui sont échangés entre particuliers, sans aller sur leur ordinateur, hein, sans entrer dans le champ de la vie privée, il y a moyen d'avoir des informations extrêmement détaillées sur ce qui est fait, beaucoup plus qu'en matière de rémunération pour code privé, qui, comme disait François, on arrive quand même à répartir avec des éléments statistiques. Voilà. Donc là, je pense, pour moi, il n'y a pas d'obstacle important sur ce point.
Je pourrais rajouter juste un petit point, c'est que jusqu'à présent, en dehors de cette proposition, aucune n'a été faite qui ramène de l'argent pour les ayants droit. Le choix qui a été fait jusqu'à présent pour combattre les échanges hors marché a été la répression. Il y a eu la loi DEFSI 1, la loi DEFSI 2, la loi DEPI, etc. Ce sont des lois donc, qui sont basées uniquement sur la répression, même si à DEPI, il y a un volet éducatif, soi-disant, ou pédagogique. dans tous les cas, ce sont des systèmes qui ne rapportent pas un centime aux ayants droit et qui, on le voit aujourd'hui, ont quand même n'ont pas arrivé à leur fin, puisque le téléchargement hors marché continue de plus belle, malgré quelques chiffres que j'ai vus ce matin lors de la conférence du SNED. On nous dit que sur le peer-to-peer, les échanges ont baissé de 35%. Oui, d'accord, bon, mais il y a des échanges qui se font ailleurs maintenant. Et en plus, le peer-to-peer représente seulement 5% des échanges qui se font de fichiers de manière hors marché. Donc il faut quand même parler des choses sérieusement et voir ce qu'il en est. On assiste à un phénomène qui est générationnel, mondial. Maintenant, les jeunes sont habitués à avoir une masse d'informations pratiquement illimitée à disposition immédiatement et pour des montants dérisoires. Il faut trouver des systèmes qui accompagnent ces nouveaux usages. Sinon, on sera à côté de la plaque et on ne percevra rien. Et on voit bien, avec le retour de Méga il y a une semaine, que le problème de Méga Upload qui nous avait été vanté comme étant réglé il y a un an, tout le monde s'était réjoui, à notre avis, un peu vite. Et malheureusement, parce qu'on ne peut pas applaudir évidemment ce genre de choses, malgré tout, c'est des phénomènes qui sont encore une fois aujourd'hui combattus, mais qui il y a peu de chances que ça aboutisse. Et donc nous, on préfère avoir un système dans lequel les ayants droit perçoivent quelque chose, plutôt qu'un système sur lequel on dit oui, on va tout arrêter, on va mettre tout le monde en prison, et qui est un système totalement irréaliste. Bien entendu, je précise que l'aspect DIDAM préconise farouchement de lutter contre tout ce qui est échange lié à de la contrefaçon, c'est-à-dire que les gens qui font du commerce à partir de fichiers illicites, évidemment, il faut combattre ça. Notre proposition ne s'adresse qu'aux échanges hors marché entre particuliers.
Oui.
Merci, bonjour, Gilles Verken, avocat. J'avais une question sur la transposition de la directive durée, sur l'extension de la durée. Ma première question, c'est: est-ce que vous avez pu faire une évaluation de l'enjeu potentiel financier pour les artistes-interprètes? Et ma deuxième question, c'est: on sait que entre ce que dit la directive et ce qu'on peut faire du coup en droit national, il y a quand même un certain nombre de points sur lesquels on peut jouer, il y a encore une marge de manœuvre. C'est mon sentiment, est-ce que c'est le vôtre? Et si oui, quels sont les points selon vous qui vont être l'objet d'une discussion future quand le ministère se mettra à travailler sur le dossier? Ce qui ne saurait tarder, bien sûr. Merci.
C'est un sujet compliqué. Le ministère a déjà commencé à travailler sur ce dossier, pour autant que je sache. Ce que la directive va apporter aux artistes-interprètes, sans doute pas grand-chose. Cette directive, elle a été conçue et voulue pour l'industrie phonographique, et c'est dans le processus de proposition de cette directive qu'on a mis en avant l'intérêt des artistes-interprètes. Vous savez que l'un des problèmes principaux pour les droits des artistes-interprètes, c'est qu'une grande partie de ces droits est cessible aux producteurs dans les contrats individuels. C'est pour ça qu'on se retrouve avec la difficulté sur Internet de n'avoir aucune rémunération pour les artistes-interprètes pour les services à la demande. Pourquoi ? Parce que l'artiste-interprète qui n'est pas la vedette, il se retrouve avec un contrat type d'adhésion, il signe une feuille de papier dans laquelle toutes les utilisations sont cédées, dont les services à la demande. Alors que ces droits soient cédés sur 50 ans ou sur, puisque c'est le résultat pour ceux qui ne sont pas techniciens de la directive, pour 70 ans à partir de novembre 2013, il y a une extension des droits sur les enregistrements sonores de 50 à 70 ans, ça ne change pas grand-chose. Une cession globale des droits, c'est une cession globale des droits, et elle a toujours été pour toute la durée de protection des droits. Donc elle s'appliquera à 70 ans. Donc pas un énorme impact, mais c'est vrai que la commission a fait ce constat du fait que les artistes-interprètes cèdent souvent tous leurs droits sans contrepartie, qu'il faut créer un système. Et elle a donc conçu dans cette directive, et c'est ce à quoi tu penses, Gilles, elle a conçu un système où, pour la durée supplémentaire de 20 années d'exploitation, il y aura l'obligation de verser une rémunération complémentaire aux artistes-interprètes qui ne bénéficient pas de royalties. C'est-à-dire les artistes-interprètes de studios, d'ensembles qui ne bénéficient pas du produit d'exploitation de l'enregistrement. Et la commission a fixé à 20% des revenus des producteurs les sommes qui doivent être versées aux artistes-interprètes qui ne sont pas les artistes principaux. Alors c'est un pratique que j'aime beaucoup, et je serai prêt à l'appliquer dès la première année d'exploitation pour tous les types d'exploitation faits par les producteurs. Alors, ça sera déjà un bon point de départ d'avoir 20% des revenus des producteurs et ça sera un facteur d'équité. Mais là, on ne parle que de la période qui suit la 50e année d'exploitation jusqu'à la 70e année d'exploitation. Et la réponse à savoir si on a une évaluation des conséquences, la réponse est non. Quand on aura la transparence de l'industrie phonographique sur ses exploitations, sur les chiffres d'affaires, sur les relevés de vente, peut-être qu'on pourra avoir une évaluation. Mais savoir quels sont les enregistrements qui vont être exploités plus de 50 années et qu'est-ce qu'ils peuvent rapporter aux producteurs et par conséquent pour 20% aux artistes pour les 20 années suivantes, pour le moment, on n'a pas d'évaluation. Au niveau européen, on travaille avec les producteurs, on essaye d'établir des principes communs de mise en œuvre au niveau national par les États membres de l'Union européenne de cette directive, notamment pour savoir qu'est-ce qu'est un producteur, quelle est l'assiette, comment va se payer ces 20%, quelles informations vont être communiquées aux sociétés d'artistes interprètes accompagnant le paiement de ces 20%, comment on peut contrôler que ces 20% sont bien payés. Donc on essaye d'avoir des principes communs avec l'industrie phonographique qui permettrait de faciliter cette mise en œuvre. Mais on a très peu de visibilité sur les conséquences. Il y a deux autres dispositions intéressantes pour les artistes-interprètes dans cette directive, notamment le fait pour un artiste-interprète dont l'enregistrement n'est pas exploité au bout de 50 ans d'annuler son contrat avec le producteur pour en faire l'exploitation. C'est quelque chose aussi qui pose pas mal de problèmes, notamment en cas de pluralité d'artistes-interprètes. Comment ça se passe? Quel est le contrat annulé? Est-ce que c'est globalement le contrat d'exploitation? Est-ce le contrat avec l'artiste qui sollicite la résolution du contrat? Et il y a une autre disposition qui s'appelle, en anglais, use it or lose it, hein, c'est-à-dire qu'au bout de 50 années d'exploitation, un artiste principal qui perçoit de royalty ne peut plus se voir opposer des déductions sur son pourcentage de royalty par le producteur. Donc, pour répondre à ta question, on n'a pas une très bonne visibilité parce qu'on manque de données économiques. On essaye de se mettre d'accord sur les grands principes avec l'industrie phonographique. Je ne pense pas que ça va changer la vie des artistes interprètes en pratique, et notamment pas économiquement. Mais sur le plan des principes, il y a quand même derrière ces dispositions qui avantagent en premier lieu l'industrie du disque, des éléments qui permettent de dire que la Commission européenne, les instances européennes se rendent compte qu'il faut trouver des dispositifs pour défendre mieux les artistes interprètes et pour que réellement ils bénéficient de leurs droits. Voilà, si je vais en quelques mots essayer de résumer tout ça.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions, questions, observations? Oui.
Oui, bonjour, Philippe Astin pour Musique Info. Je voudrais vous poser une question sur une de vos revendications qui est que les artistes interprètes membres de la SPEDIDA, donc qui a priori cèdent tous leurs droits contre un cachet. Donc, comment on peut les appeler, les artistes accompagnateurs, ou je ne sais pas, les artistes principaux qui sont sur la pochette de l'album. Et d'ailleurs, ce serait bien que ce soit plus clair dans votre communication, parfois, auprès d'un public qui n'est pas très averti de ça. Cette revendication, en fait, à une époque, on parle de voter une loi Lang 2.0. Si je me souviens bien, dans les années 80, la première loi Lang, elle a ouvert des droits à ces artistes-là, via la rémunération équitable et la copie privée. Donc, on va se dire, ça pourrait être tout à fait légitime que une loi Lang 2.0 ouvre des droits sur Internet aux artistes membres de la SPEDIDA. Or, on a l'impression que vous êtes entendu de personne vraiment prêcher dans le désert, c'est-à-dire ni des producteurs, ni des pouvoirs publics, sur cette revendication-là, qui pourrait paraître légitime. Néanmoins, je me poserai une question sur cette revendication-là. Si le numérique devient le mode d'exploitation majeur de la musique enregistrée, est-ce qu'on n'est pas dans un autre cadre que le fait d'être rémunéré sur des exploitations dites secondaires?
Je commence. Il ne s'agit pas de distinguer entre utilisation principale ou utilisation secondaire. C'est une faiblesse et sans doute une erreur liée à la faiblesse que les artistes interprètes sur le marché physique, quelle que soit leur qualité, n'aient pas été rémunérés. Il ne faut pas considérer qu'on passe d'une situation où les artistes interprètes n'ont pas de droit aux produits de l'exploitation de leurs enregistrements à une situation où soudainement on va découvrir ce besoin. Que sur l'économie du support physique et pas une rémunération pour les artistes non principaux qui ne bénéficient pas de royalties, c'était une anomalie. Et c'est quelque chose qui est d'autant moins acceptable qu'aujourd'hui, où le coût d'exploitation, si on parle de la musique ici, où le coût d'exploitation d'un enregistrement en ligne n'a rien à voir avec le coût d'exploitation physique. quand on fait un peu l'analyse du coût d'exploitation, on se rend compte que, tout le monde le sait bien, c'est suffisamment débattu, quand il y a un titre qui est disponible en ligne, bah, il n'y a pas de pressage, il n'y a pas de reproduction, il n'y a pas de pochette, il n'y a pas d'impression, il n'y a pas de transport. Donc les modalités d'exploitation sont différentes. Et de toute façon, effectivement, le point de départ, c'est de considérer que les artisans d'après non principaux ont légitimement droit à cette rémunération. D'autant plus que ces usages sur Internet commencent à se substituer aux garanties qui étaient obtenues par la loi de 1985, la loi Lang. Vous avez aujourd'hui des usages d'écoute de la musique qui se déplacent du champ de la radiodiffusion classique, qui était soumis à une des deux rémunérations qui bénéficient aux artisans d'après, la rémunération équitable. Ça se déplace sur Internet avec des services à la demande où là, il n'y a pas ces garanties. Donc, même si on considère que ces utilisations sont des utilisations principales et non pas secondaires, nous considérons que les artisans d'après ont un besoin impérieux d'avoir ces garanties de rémunération que nous réclamons aujourd'hui.
Je veux juste ajouter une petite chose qui va compliquer encore plus la définition artiste principal, artiste interprète. Pourquoi ? Parce que il faut que ces dénominations soient expliquées pour chaque enregistrement. Parce que le même artiste peut une fois être artiste principal et puis une autre fois être artiste interprète non principal. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Effectivement, c'est difficile peut-être à expliquer au grand public d'avoir des termes comme ça. Moi-même, j'ai été pendant 30 ans donc, musicien professionnel et j'ai eu des enregistrements dans lesquels j'étais artiste principal et d'autres où j'étais artiste non principal. Donc c'est un peu plus complexe encore que ce n'est pas des individus, hein, c'est vraiment titre par titre. Ça, c'est une première chose. Et donc après, on peut se poser la question, est-ce que le même individu, lorsqu'il est artiste principal, joue mieux que quand il est artiste non principal ? Est-ce qu'il y a une différence de qualité dans son interprétation ? Donc on peut rentrer après dans des débats un petit peu moins techniques, mais c'est bien la même personne qui joue, et donc on ne voit pas pourquoi il n'y aurait pas les mêmes droits pour tous ces artistes. Et donc nous, au niveau de l'aspect guidable, on représente l'ensemble des artistes, qu'ils soient principaux ou non principaux, et donc nos propositions vont dans le sens de la défense de tous les rôles que peuvent avoir ces artistes au fur et à mesure de leur carrière.
Une autre petite chose, vous avez dit tout à l'heure qu'on a l'impression que vous n'êtes pas entendu par rapport à tout ce qu'on... C'est vrai qu'on a vécu toute une période qui vient de passer où, manifestement, les artistes de notre type, de l'ensemble du monde artistique, je crois, était écarté au profit de l'industrie. Et naturellement, les artistes, ce qu'on appelle les artistes d'accompagnement, étaient les premiers visés dans le cadre de ces objectifs. On a même vu l'administration s'opposer à ces artistes en proposant de les intégrer dans le cadre d'une convention collective très à la limite de la légalité française, mais l'administration a considéré que c'était légal et les a intégrés dans une convention et on a transféré les droits de ces artistes aux producteurs. Donc on espère, et la négociation avec le nouveau gouvernement, enfin une nouvelle politique, va dans le sens que on voudrait voir rétablir un petit peu la situation de ces artistes dans le numérique et de le mettre à l'équivalence de l'analogique. Ce que l'administration nous disait que c'était pas la même chose, c'était impossible. Mais c'est vrai que la convention collective, pour eux, c'était possible, alors que nous, on dit que c'est illégal. Et pourtant, l'administration nous a dit que c'était possible. Alors, tout ça est en négociation, et on espère être entendu maintenant par le nouveau gouvernement. C'est la politique qui nous gouverne. Ce pas les artistes.
D'autres interventions, s'il vous plaît, d'autres questions. Pas d'autres questions, rien qui vous interpelle. Bien, bah, écoutez, dans ce cas-là, encore merci à vous tous pour votre présence. Bonne continuation dans ce MIDEM 2013, et puis de toute façon, nous avons un stand ici où vous pouvez nous rejoindre si il y a quoi que ce soit, une interrogation quelconque, nous sommes à votre entière disposition. Merci à vous et bonne fin de soirée.